Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous voici avec une nouvelle émission du Mouvement Action Justice. Une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Dévoiler publiquement les atrocités perpétrées par des abuseurs de pouvoir est un devoir, un droit légitime de citoyen. Voilà pourquoi nous vous invitons à nous appeler au 514-273-4302. Je répète, 514-273-4302 ou bien nous écrire à info@maj-quebec.com. info@maj-quebec.com. Au micro ce matin, Hadj Zitouni et Roland Cazès, deux militants de MAJ. Nous avons aussi avec nous dans le studio Madame Perla Dair, une personne dont l'histoire, malheureusement, suit aussi ce parcours douloureux de l'injustice. Si vous voulez, une autre rescapée des abus de pouvoir. Elle vient ici avec un courage énorme, non pas pour détruire, mais plutôt pour construire. Elle pense comme nous que dénoncer est un pas en avant constructif. C'est l'envoi d'une prise de conscience collective qui désire apporter des changements nécessaires pour notre société. Vous allez entendre cette victime et voir comment son histoire est doublement tragique. Tragique au premier plan étant une femme qui sortait d'une sale guerre, laissant derrière elle, sous les décombres, ce qu'elle avait de plus cher. Puis au second plan, cet espoir qu'elle avait longtemps nourri et entretenu de vivre un jour dans un pays où la paix et la justice vont lui faire signe de bon train. Cet espoir va s'effondrer lui aussi à son tour pour la laisser à peine accrochée à une survie jugée incertaine. Écoutez, nous attendons également M. Babenko Goffman qui va venir d'une minute à l'autre dans le studio. C'est un futur avocat qui travaille dans le bureau d'avocats Simon et Associés, quelqu'un de fidèle et sensible à cette émission. Nous l'avons invité ce matin pour entendre son opinion suite au témoignage d'aujourd'hui. Donc voilà, bonjour Madame Dair, merci d'avoir accepté de venir témoigner dans cette émission. Et comme vous avez souhaité lever le voile sur ces épisodes noirs de votre vie publiquement, permettez-moi de vous présenter et résumer peut-être un peu votre histoire avant de vous céder la parole. Donc vous êtes d'origine grecque, à l'âge de 16-17 ans, vous avez fait la connaissance des Libanais dans votre pays d'origine. Donc marié avec celui-ci, vous l'avez accompagné au Liban et vous avez eu deux enfants. La guerre au Liban se déclenche, donc je pense que le mot « guerre » veut tout dire et je n'ai pas envie de rajouter des mots. Votre mère suit les informations de la guerre de loin et elle vous demande de retourner en Grèce. Vous ne l'écoutez pas. Alors, trop angoissée et inquiète, elle décide d'aller vous rejoindre au Liban. Malheureusement, quelques jours après, elle meurt dans un bombardement aérien. Votre frère, quasiment dans des circonstances similaires, y perd la vie. Donc aussi, votre maison ne tient pas non plus, elle s'écroule sous les bombes, et la panique est totale, le chagrin est à son plus niveau, déséquilibre, désolation, enfin un décor chaotique, et une porte s'ouvre en clandestinité vers le Canada, et vous voilà réfugié avec votre famille dans le paradis terrestre des infortunés. Vous avez choisi de vivre au Québec, et plus précisément à Montréal, depuis 1990. Aussi, vous n'avez jamais été humilié dans votre vie, si je ne me trompe pas, même pas pendant la guerre. Et voilà que vers l'an 2001, vous avez au métro Bérucam pour acheter une carte de métro, le changeur de la station avec qui vous avez changé des gestes de salut et quelques sourires amicaux demande par qui vous disiez votre origine. Vous leur répondez que vous êtes grec. Le monsieur est content et même surpris puisque la coïncidence fait que lui aussi est d'origine grecque. Curiosité davantage, donc il vous demande aussi si vous étiez marié. Réponse affirmative et vous ajoutez qu'il était libanais. Mais à ce moment-là, l'humour disparaît soudainement. L'homme affiche un nouveau visage, pas très plaisant. À votre avis, Madame Dair, pourquoi ? Et qu'est-ce qui t'est arrivé par la suite? Et je vous amène un petit peu plus loin, précisément le 9 septembre 2002.
Le 9 septembre 2002, je m'en allais chez moi, je retournais chez moi à la maison, puis tout était normal, les tourniquets fonctionnaient normalement. les gens pouvaient sortir et rentrer. Puis d'un coup, quand il m'a vu, le changeur, d'un coup, les tourniquets sont arrêtés. Et comme vous savez qu'il n'y a jamais de problème avec les tourniquets, les passes peuvent être démunitisées, quelque chose comme ça, n'importe quoi avec les passes, là, les cartes de métro, mais les tourniquets ne peuvent jamais s'arrêter. Donc d'un coup, tous les gens qui...
Ça veut dire quand vous êtes arrivé sur le lieu, il vous a aperçu et c'est là qu'il a fait le geste de bloquer le passage.
Exactement.
Okay, et qu'est-ce qui est arrivé?
Et personne n'a le droit de faire ça que seul le changeur. Donc tous les gens qui ne pouvaient pas rentrer, qui pouvaient pas rentrer pour aller chez eux, ils allaient chez lui. Chez le changeur, il les laissait tous passer, voilà. Sans même leur demander quoi que ce soit, aucune question.
Après ça, vous êtes arrivé, vous avez fait la même chose.
J'ai fait la même chose, bien sûr, j'ai essayé de faire passer ma passe.
Vous êtes arrivé devant lui, vous avez dit, monsieur, comme tout le monde,
je vais
passer.
Monsieur, je voudrais passer, ma passe ne passe pas. Alors, il ne voulait pas me répondre. Le monsieur qui est derrière moi dans la rangée, il lui dit, hey, laisse passer madame. Il a dit, vous, ce n'est pas votre problème, elle ne passera pas.
Ça veut dire qu'il avait déjà un problème avec vous.
Exactement. J'ai dit, mais monsieur,
qu'est-ce qui est arrivé, madame?
Qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, vous ne passerez pas parce que vous avez commis un acte criminel. Une fraude, vous avez
ça,
laissé...
Ça, il dit ça à vous?
À moi, oui.
Un acte criminel, c'est quoi l'acte criminel, madame?
Que j'avais laissé passer quelqu'un avec ma passe.
Ok, mais plus tard, on va voir, comme quoi sur le vidéo, que c'était pas vrai.
J'étais innocente.
Ok, vas-y.
Et à ce moment-là, j'ai dit, mais monsieur, je vous assure, j'ai rien fait. Mais j'ai pas continué ma phrase, que d'un coup, il prend le téléphone, on dit qu'il a appelé les policiers.
Il a fait un appel.
Un appel. Alors, ouais. Les agents de sécurité, trois sont arrivés, un lieutenant, le clerc. Et il y a eu deux agents qui sont venus.
Deux agents de sécurité.
Exactement, de la STM, oui.
Donc vous les voyez venir vers vous?
Ils sont venus. Et puis d'un coup, j'ai vu qu'ils étaient en train d'enfiler des gants noirs. Alors moi, bien sûr.
Avant même d'arriver de loin, oui.
Non, quand la madame est arrivée juste en face de moi, oui. Déjà elle a commencé à mettre des gants, sans même dire un mot, sans même demander quoi que ce soit. Alors bien sûr, il y avait des témoins qui étaient là, qui étaient choqués, qui regardaient qu'est-ce qui allait se faire. Je n'ai rien fait. Alors, ils ne m'ont même pas demandé quelle était la raison, absolument rien. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suivi de ce que le changeur leur avait, je ne sais pas ce qu'elle a dit au téléphone, là, ils les ont appelés pour un problème.
C'est-à-dire, ils n'ont même pas allé voir le changeur, tout c'était passé par téléphone.
Absolument rien.
Okay. Qu'est-ce qui est arrivé, madame? Une fois, ils sont devant vous, là.
Alors, il y a une des agentes qui est venue juste en face de moi, et moi, bien sûr, je n'ai pas fait attention à celle qui est venue derrière moi. Alors, j'étais occupée avec celle qui est juste devant moi, qui était derrière le tourniquet.
Vous étiez occupée, c'est quoi?
Bah, j'étais avec les gants noirs, là, la madame qui mettait des gants noirs.
Vous essayez de lui parler.
Oui, j'ai dit, madame, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous allez me faire? Je vous jure, j'ai ma passe valide, je vous garde ma passe, s'il vous plaît. Alors, elle ne disait absolument rien. D'un coup, je sens que quelqu'un me pousse de derrière mon dos, là. J'étais comme sur le ciel, une devant moi, une derrière moi.
Vous êtes dans le tourniquet, là.
Dans le tourniquet.
Donc, vous étiez bloqué par
le tourniquet. Bloqué, exactement.
Okay. Il y avait une personne derrière vous, une
sécurité. C'est l'agent de la STM.
Et elle en avant de vous.
Et en avant de moi.
Et ils ont commencé à essayer de vous quoi?
Comme une balle. Comme une balle. Non, comme une balle. Oui. Et puis elles ont menti tout ce qu'elles disaient. Elles disaient que tout ce qu'elles voulaient, c'est que je sorte du tourniquet.
Parfait.
Exact.
Oui.
Mais comment voulez-vous que je sorte? Alors là, comme vous le savez bien, je ne sais pas si vous avez l'expérience du métro là, le tourniquet là, c'est juste une personne qui peut passer. On peut pas, il n'y a pas deux.
Tout à fait, oui.
Donc alors j'étais là, alors j'étais comme une balle. Alors une me poussait par là, une me poussait par là, l'autre me donnait un peu des coups là, elle me tenait par les épaules. Et je tournais, j'ai eu le vertige. Puis d'un coup, celle qui est derrière moi, elle a tiré tellement la mandolière parce que c'est un sac, vous savez, un sac à main.
Sac, oui.
Alors, le sac a cédé.
Est tombé par terre, j'imagine.
Est tombé par terre, mon sac. Et il y a eu des affaires parce que c'était déjà ouvert parce que j'avais fait sortir ma passe.
Et
là.
Vous avez essayé d'aller ramasser vos affaires.
Exactement.
Oui.
Alors, comme vous savez, ce sont des miroirs, mon peigne, etc., les clés. Et puis, d'un coup, la madame, là, elle me tient par la main, par le bras, là, pour m'empêcher de mettre mes affaires dans le sac. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est elle qui met toutes ces affaires.
C'est elle qui a ramassé vos affaires dans le sac.
Exactement. Puis, okay. Elle prend mon sac. J'avais un sac de 1$ que j'avais avec moi en plastique. Elle donne les deux. Elle les donne au lieutenant.
Marc Provencher, ligne 1.
Oui, vas-y.
Elle les donne au lieutenant.
Vas-y.
Elle donne les deux sacs au lieutenant qui était juste près de moi. Alors je dis, monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous en prie, donnez-moi mes sacs, je vous en prie. Il a dit, taisez-vous, faites ce qu'on vous demande de faire. D'un coup, pendant que je lui parlais, j'essayais qu'il puisse m'aider parce qu'il était de la STM, c'est un lieutenant là, habillé en blanc, autrement que les autres qui étaient en bleu. Je sens que je suis par terre. Alors je sens mes chevilles là.
Vous êtes par terre, madame.
Exactement, elle me tire par les chevilles.
Ils vous ont tiré par les chevilles. Après...
Oui, c'est celle qui était là qui m'a ramassé mes affaires. Elle me fait tomber par terre. terre, la tête au sol, et l'autre est devenue, et chacune maintenue par les deux bras. Mais bien sûr, vous devez savoir que dans le tourniquet, j'étais malmenée parce que j'ai eu des blessures, j'ai essayé de me défendre pour qu'on ne me touche pas avec les griffes.
Qu'est-ce qui est arrivé après, madame? Ils ont traîné, ça, ce que vous m'avez dit?
Ils m'ont traîné jusqu'au poste de police qui est peut-être 100 pieds. Là,
traîné par les pieds, là?
Par les bras, par les poignets.
Ok.
Et par les poignets et mes pieds, bien sûr, aller de gauche à droite. Il y a eu une intervention des patients, il y a eu plus de 100 témoins. Alors tout le monde essaie de contacter le 911 pour appeler la police.
Vous êtes dans le bureau, madame, ils sont ramenés dans le bureau.
Ils m'ont ramené dans le bureau, mais bien sûr, en voyant toutes les ecchymoses et toutes les blessures dans lesquelles j'étais, elles étaient effrayées, et ils voulaient absolument me mettre dans une ambulance pour que je parte, mais j'ai refusé.
Pourquoi vous avez refusé, madame?
Pardon, parce que j'ai peur d'aller dans une ambulance, je ne veux plus être avec elle seule, parce qu'elle allait m'accompagner à l'ambulance, je ne savais pas, moi, monsieur. Okay. Alors j'avais peur, bien sûr, d'aller dans l'ambulance. J'étais seule, je n'avais personne avec moi.
Madame, est-ce que vous ont donné une infraction?
Ils m'ont donné un constat en plus d'infraction de 150 $.
C'est quoi, madame?
Au lieu de me donner le constat d'infraction pour l'accusation dont on m'avait accusé que j'avais commis une fraude ou un acte criminel, parce que si on m'avait donné le constat d'infraction de cet acte d'accusation-là, j'aurais été, comment dirais-je, non pas coupable, parce que moi j'avais la preuve, oui j'avais la preuve que moi j'avais ma passe valide, mais eux ils m'ont donné un constat d'infraction que j'avais perturbé la circulation.
Parfait. Dans le métro. Mais une fois ils vous ont donné la contravention, après ça ils vous ont laissé partir, j'imagine?
Bien sûr, après ça, j'ai quitté. Ils m'ont dit, vous pouvez rentrer chez vous. Et quand je suis sortie, il y avait un monsieur d'un certain âge, peut-être 50 ans. Il m'a dit, pauvre madame, qu'est-ce qu'on vous a fait? J'ai attendu pour voir qu'est-ce qu'on allait vous faire. Puis je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé.
Après ça, madame, qu'est-ce qui vous a demandé?
Je me suis trouvée à l'hôpital.
Ah, vous avez perdu conscience sur le lieu?
Je ne sais vraiment.
Il y a une ambulance qui est venue vous chercher, c'est à l'hôpital.
Exactement, je me suis rendue à l'hôpital d'urgence. Je me suis trouvée sur une chaise roulante. Et
qu'est-ce qu'il a constaté, le médecin?
Alors, le médecin, bien sûr, il m'a dit, madame, après qu'il m'a consulté, il a dit, je n'ai jamais vu, madame, une femme aussi victime de cette agression brutale, sauvage par ces agents-là. Et je vais vous mettre pour la première fois, je n'ai pas le droit de le mettre comme médecin, il a abus de pouvoir criminel de la part des agents de la sécurité sur la victime. Alors j'ai eu des ecchymoses multiples.
On a secrète, c'est bon. Mais vous étiez blessée, madame, au dos, j'imagine, partout?
Oui, parce que moi, quand j'essaie de ne pas laisser me tenir avec les gants, j'avais peur des gants. Vous savez, j'ai subi une guerre, là. Et puis...
Vous, quand vous avez vu les gants, ça vous avait effrayé?
Oui, ça m'a beaucoup effrayé. Parce que je dis, madame, je vous en prie, qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez me fermer les yeux, me prendre en prison? Qu'est-ce? Parce que je ne savais pas. Elle ne parlait pas, elle ne me disait rien. Elle n'a même pas écouté les témoins. J'avais plein de témoins qui étaient là, qui ont intervenu, mais elle ne voulait écouter personne. Chaque fois que quelqu'un voulait intervenir, ah, écoutez, si vous allez encore intervenir, on va vous arrêter. Il voulait arrêter tout le monde.
Et ça, c'était vraiment le changeur qui a... À partir que l'on... C'est-à-dire, une fois le changeur, il a appelé, il a fait l'appel, tout le monde, ils ont cru directement le changeur, et vous, votre version, elle n'était jamais prise.
Donc, personne n'a écouté le changeur, ce sont seulement les agentes, mais les témoins savaient très bien que le changeur mentait. Mais puis, les agentes de sécurité, elles étaient obligées de vérifier, de voir qu'est-ce qui se passe, de me parler. Mmh. Mais c'est ça qui m'a effrayé beaucoup.
Ça veut dire, après l'hôpital, madame, après cet acte, cette agression...
Mais j'étais complètement par terre, j'étais complètement découragée. Durant toute la guerre de 20 ans là, que j'ai endurée au Liban, une guerre atroce, une guerre terrible, toutes les guerres sont... Je n'ai jamais pu subir une telle humiliation.
C'est une humiliation qui vous a fait vraiment...
L'abus de pouvoir aussi, c'est l'abus de ces agents qui se permettent de faire des actes odieux, contre des personnes victime parce qu'elle profite. Parce que si j'étais un homme, monsieur, excusez-moi de vous le dire, si j'étais un homme, elle n'aurait jamais osé faire ça. Alors,
vous pensez,
profite.
Madame?
Oui. C'est-à-dire que si c'est un homme qui est une personne de, comment dirais-je, pas faible, mais si c'est un homme riche, par exemple,
c'est avec... C'est quand même une femme
âgée, fatiguée.
Vous voyez que trois personnes autour de vous, pour une personne qui mesure même pas...
Exactement. Puis c'était comme des vaches, là, des personnes sauvages qui étaient venues, on dirait qu'elles étaient là pour se défouler. Vous comprenez? Ça, c'est pas que c'est pas une justice, ça c'est de l'abus de pouvoir. Alors elles sont libres de faire tout ce qu'elles veulent sur vous. Vous ne pouvez même pas dire un seul mot. Même si vous avez raison, elles vont toujours trouver une excuse pour vous mettre, pour vous faire, vous rendre coupable, et vous rendre que vous êtes vous vraiment la méchante, la coupable, etc.
Bah écoutez, Madame Dare, on va prendre une pause musicale et puis on va revenir avec vous. C'est correct, madame. Et donc, on va profiter de continuer notre discussion avec Madame Daher. Madame Daher, c'est quand même tragique. Depuis 2002, vous traînez tout ça derrière vous, sur les épaules. Comment vous vivez tout ça là jusqu'à présent?
Vous devez savoir une chose, monsieur, c'est très important pour les immigrants. Premièrement, les immigrants...
Est-ce que vous pensez juste des immigrants, madame?
Non. Moi, je parle maintenant, entre parenthèses, je veux mettre quelque chose entre parenthèses, ouais. Pour que les gens, que tout le monde sache, surtout, c'est un appel aux gens, au monde entier, que les immigrants, lorsqu'ils émigrent, il faut que les gens du pays sachent une chose, c'est que pour que quelqu'un puisse émigrer, quitter son pays, c'est parce que vraiment, c'est pour quitter, pour sauver les enfants de la torture, de la guerre, de la souffrance, de la faim. Donc, on n'y vient pas ici pour être riche, ni pour faire fortune. Donc, quand on vient ici, c'est parce qu'on a une lueur d'espoir. Parce qu'on choisit le pays dans lequel, vraiment, il y a tellement de bonnes choses, on nous raconte tellement de belles choses, on voit la télévision, la radio, les pancartes partout, et tout ça. Alors, on est venu ici après que ma maison a été détruite, après la guerre atroce que j'ai subie avec mes enfants, après la mort de ma mère, etc. Alors, vous comprenez, quand on vient ici, c'est avec une lueur d'espoir. Puis on vient ici et tout s'écroule. Qu'est-ce qui s'écroule? C'est parce qu'on voit que ce n'est pas ce qu'on s'attendait à ça. C'est pas ça auquel on s'attendait. Alors vous comprenez un peu qu'est-ce que c'est. Alors ce qui se passe aussi, la seule chose qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à obtenir justice. On n'arrive pas à obtenir l'aide qu'il nous faut. On est perdu. Vous allez d'un tribunal à l'autre. Vous savez,
je comprends, madame. Revenez dans votre cause à vous-même.
Mais
en deux mots, qu'est-ce que vous pouvez me dire, madame, de 2002 jusqu'à présent, vous vivez toujours ça? Est-ce que vous ne voulez pas laisser ça derrière vous?
Comment voulez-vous que je laisse
une page?
Monsieur, je peux leur pardonner le mal qu'ils m'ont fait, mais je ne peux pas pardonner le mal qu'ils ont fait à la vie de mes enfants, à la vie de ma famille. Et moi, je vis comme une loque humaine maintenant, et je lutte jusqu'au bout, parce que durant toute la guerre à laquelle j'ai passé, je n'ai jamais été humiliée de cette façon.
C'est vraiment l'acte de l'humiliation, madame, qui vous met
ça? Écoutez, monsieur, je n'ai rien fait pour une passe de métro que j'ai payée, qui était valide, et j'étais innocente, mais la STM, avec l'abus de pouvoir dont ils détiennent, c'est une grosse machine qui n'ont pas de cœur. Tout ce qu'ils ont fait pour protéger les employés et protéger la réputation du transport en commun qui soit disant un des plus grands sociétés de transport là, je n'arrive pas à trouver le mot, monsieur, qu'ils puissent enlever la bande, l'agression, pour que je ne puisse pas me défendre. Alors au lieu de donner aux citoyens,
protéger leur
réputation, alors qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont une personne qui est vraiment...
Ils ont enlevé l'agression d'une façon...
Madame Daher, j'aimerais bien, je vous juste aviser, chère auditrice et auditeurs, monsieur Babenko Goffman, il vient de rentrer au studio, donc on lui passe le micro pour qu'il puisse nous dire qu'est-ce qu'il pense, puisque lui, il a déjà rencontré madame à deux reprises, donc il va nous dire qu'est-ce qu'il se pense de son KL. Bonjour, monsieur Goffman.
Donc, bonjour, merci beaucoup. Puis, tout d'abord, j'aimerais noter que les agents de la sécurité de la STM ne sont pas les policiers, n'est-ce pas, maître? Ils ont toutefois les agents de paix, et donc ils ont un pouvoir d'arrestation et de détention en vertu du code criminel, ce qui veut dire qu'ils peuvent, en principe, émettre des constats d'infraction sans même voir la personne commettre l'infraction en tant que telle. Donc,
vous comprenez, maître, excusez-moi, comprenez, monsieur, c'est la manière de la traîner, elle, c'est...
Je m'en viens là-dessus.
Vas-y, oui.
Je m'en viens là-dessus. Évidemment, ces agents sont appelés d'intervenir auprès de la clientèle de la STM plusieurs fois par jour, parfois dans des situations qui mettent en danger leur vie ou la vie des autres passagers. Et c'est pour ça que leur présence sur les lieux est imminente.
Exactement.
Puis elle est nécessaire parce qu'ils sont, ils forment une pierre angulaire de la sécurité de transport en commun. Puis c'est d'ailleurs pour ça que c'est autant dommage d'attendre des histoires comme ça. Parce que moi, bien personnellement, même si j'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine de sécurité publique, je ne peux pas imaginer un cas où il serait nécessaire ou même acceptable dans le cadre d'une intervention de traîner une madame d'un certain âge sur le plancher par ses pieds, donner des coups, commettre de voies de fait de genre, et ce même si elle a effectivement commis une contravention avec son titre de transport, ce qui ne mène pas le cas ici. Exactement. D'après ce que j'ai entendu. Donc, et comme si ce n'était pas assez, en 2009, la madame s'est fait malmener encore une fois, cette fois par les policiers de Laval, n'est-ce pas?
Ouais.
Donc, d'après ce que j'ai compris ici, elle s'est fait humilier et s'est fait émettre un constat d'infraction. Donc, encore une fois, ici, les questions de l'attitude des policiers qui se sont permis de poser de tels gestes envers la personne qui les a elles-mêmes appelées au secours.
Exactement, oui.
Donc, voilà. Moi, je ne peux pas, en tant que tel, porter jugement sur le mérite de la cause de la madame. D'ailleurs, la décision là-dessus a déjà été prononcée par les tribunaux, puis ce n'est pas à moi de la remettre en question. Mais ce qu'il faut comprendre sur les tribunaux, c'est que la façon que ça marche avec la preuve. On n'a pas à débattre dans ce cas-là une question de droit devant le juge. Là, on n'a pas à prouver au juge qu'il est illégal de battre une femme. Ça, elle le sait déjà. C'est la question de présentation de la preuve et donc l'image que le juge voit au procès pourrait être bien différente de ce qui est en réalité. N'est-ce pas, maître?
Si je comprends bien, en définitive, un juge, d'après moi, doit rechercher la vérité. Il ne détient pas la vérité. Et si on efface la preuve, à ce moment-là, il est un peu dans le vague. Il ne peut pas porter jugement. Et je trouve justement que la recherche du droit de cette personne a été abusée.
Vous dire que la sécurité, c'est-à-dire la société de transport de Montréal, comme j'ai bien souligné, elle a tout fait pour éviter que l'acte de l'agression
disparaisse. C'est évident.
La vérité présentée au juge, elle est modifiée par le filtre de la preuve auquel il a l'accès durant le procès.
Oui.
Donc, on peut voir la madame au point de vue purement personnel, purement humain. Mes sympathies sont avec elle. Puis, une courte conversation avec elle, d'ailleurs, suffit pour voir comment cet événement l'a perturbée de façon profonde, au point tel qu'on note l'écho de ses émotions dans sa voix. Donc, cette imminence d'être toujours en présence de ses agents de paix lors de déplacements et cette conduite qu'ils adoptent lors de leurs interventions, créer un sentiment de vulnérabilité face aux personnes au pouvoir. Donc oui, notre système prévoit des recours dans les cas pareils, puis c'est pas ça le problème. Mais là, tous les recours entrepris jusqu'à date semblent avoir échoué pour une raison ou autre. Donc nous constatons, tout à fait, nous constatons une impuissance de l'individu face au système.
Exactement.
Donc qui semble permettre, dans certains cas, qu'on puisse être malmené par les agents dits de paix sans qu'on puisse chercher une rétribution auprès des autorités. Ça nous démontre donc que notre système n'est peut-être pas sans faille, puis qu'on peut peut-être commencer à agir en tant que société pour combler les lacunes.
Exactement. Mais M. Bouffin, ça c'est un exemple, mais on a moi qui travaille dans Hommage, on a plusieurs cas, géré des dizaines de cas qui sont semblables, même si c'est pas la société de transport de Montréal qui est impliquée. Donc il y a d'autres sociétés, d'autres institutions. Moi j'aimerais bien, si vous me permettez, de donner deux minutes à M. Cazès, Roland Cazès, pour dire deux minutes, pas plus que ça. Et oui, monsieur. Et après ça, je reviens, on cède la parole à une minute pour Mme Dair. Vas-y. Oui.
Alors moi, là, il y a déjà plusieurs choses que je voudrais dire. Quand on efface les preuves.
Quelque chose, monsieur.
Oui, mais quand on efface les preuves, on est criminel automatiquement. Et c'est faire disparaître la preuve, c'est une obstruction à la justice.
Complètement d'accord avec vous. Oui.
Alors, cette obstruction à la justice, écoutez, je ne comprends pas qu'un juge ne puisse pas demander comment se fait-il que cette bande magnétique soit effacée, cette bande de vidéo.
Ben pour
ça, je n'arrive pas à le comprendre.
La suite transformée à Montréal, ils ont dit, écoutez, la bande, on a un certain moment où on ne peut pas enregistrer tout. Donc, ils étaient arrêtés là. Et pourtant, on voit madame traverser, mais on ne peut pas voir l'agression telle.
Oui, mais je suis technicien, là, je m'excuse, là, en électronique et tout ce qui s'en suit, là, c'est des salades.
Je veux souligner aussi que Mme Dahl était allée pour le bureau d'information, accès d'information, elle a eu la vente, mais malheureusement, il n'y avait pas l'acte de l'agression, même si des témoins qui étaient sur le lieu, ils sont allés à la cour, ils ont témoigné que c'était vrai. Moi, j'aimerais bien passer à Mme Dahl, je vous donne deux minutes, une minute et demie peut-être, vas-y.
Alors, malgré toutes les démarches que j'ai faites, je dois avouer vraiment qu'il y a des juges, bien sûr, je ne peux pas, et ce n'est pas tous les juges, mais les juges, parfois, ils donnent leur décision au même moment qu'on est là, sans même même prendre le temps de vérifier ou de faire une enquête, parce que c'est, ils ont un mandat de pouvoir donner justice. Je suis là, je porte plainte, il faut que le juge quand même m'écoute. Mais non, il y a une injustice, un abus de pouvoir de la part des juges.
Ça vous a coûté combien,
de certains,
madame?
Juges. Oh, ça m'a coûté ma vie, monsieur. Oui. Je ne veux pas parler de l'argent. Je vis comme une loque humaine. J'ai perdu ma fille qui ne pouvait plus supporter la situation dans laquelle j'étais, dans la maison, chez moi, partout, monsieur. Excusez-moi, donnez-moi encore une seconde. Vas-y. Toute la maison, il y avait plein de documents. À la cuisine, sur la chaise, dans le lit, partout, il n'y avait que ça.
Depuis 2002, vous travaillez juste sur ça pour prouver votre justice.
Pour pouvoir, oui, parce que moi, je n'arrive pas à accepter une chose seulement, c'est le mensonge des transports en commun qui voient dans la situation dans laquelle j'étais. Et je leur ai envoyé des centaines de lettres par les organismes communautaires.
Excusez-moi, madame. Roland, une seconde, oui. Oui. Vous avez dit un mot?
Moi, non. La seule chose que je voulais dire, c'est qu'un juge peut... Un juge peut donner un jugement et se tromper aussi, c'est un être humain.
Une seconde, avez-vous un mot à dire aussi?
Écoutez, bien sûr que là, les juges peuvent se tromper, puis il y a des procédures qui existent dans ce cas-là, mais comme j'ai dit, c'est une question plutôt juridique auquel je pense que maître.
Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette émission. Nous remercions nos invités de leur participation. Nous remercions particulièrement Radio Centre-Ville 102.3 FM, qui nous a permis cette diffusion pour que la parole de l'autre existe. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, d'être à l'écoute, et à lundi prochain, à la même heure.